réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Bonsoir à toutes et à tous. Eh oui, c'est parti, réussite éducative. Eh bien, ça va David ? Alors c'est une émission, on va vous expliquer, elle va être très belle, très innovante, un nouveau concept. On a une petite musique dans le casque, je pense que vous l'entendez aussi, chers auditeurs, c'est sympa comme tout, on a une jolie guitare. Donc réussite éducative, c'est rythmé comme émission. Alors l'émission... réussite éducative, du coup, oui, j'ai été déstabilisé parce que j'avais une petite musique dans mon casque, mais c'était joli en même temps, très joli, je connaissais pas, mais c'est très joli. Chers auditeurs, réussite éducative, comme la semaine passée, l'émission de la semaine passée, d'ailleurs, David, vous savez, chers auditeurs, qu'on la retrouve donc demain jeudi à 16h, mais sinon, elle est bien sûr déjà en podcast, puis dans les rediffusions, etc. En plus, on avait filmé, David était très beau parce qu'il n'avait pas de casque, c'était sympa. Aujourd'hui, il a repris un casque, il s'est un peu éloigné là pour aller.
On a le sentiment que c'est le casque qui est beau et moi pas trop. Finalement.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était un peu l'idée quoi.
Qu'est-ce que t'es moche quand t'as pas de casque.
C'est un peu l'idée. Mais du coup oui, la semaine dernière, pour faire comme ça un petit rappel comme on fait souvent, j'avais fait une émission, j'étais en infériorité parce que j'étais entouré de PRE, comment tu dis toi,
de
PRE,
de programme de réussite éducative.
Ouais, c'est ça. Programme réussite éducative de Nancy, de l'Axou et puis bien sûr aussi Maxéville.
Ouais, et je les remercie encore parce que vraiment, ouais. Au-delà d'avoir répondu à l'invitation, c'est vraiment des personnes super chouettes avec qui c'est vraiment cool de bosser. On se sent, moi étant seul sur mon dispositif, n'ayant pas d'équipe, c'est des gens grâce auxquels, je me sens moins seul et beaucoup plus. Enfin, c'est super. C'est des gens que j'adore.
Bah génial. Puis dans quelques secondes, vraiment le temps que je fasse un petit calendrier vie associative, dans quelques secondes tu vas nous parler de cette émission très étrange qui débute maintenant, qui va peut-être un peu surprendre les auditeurs, mais je pense que ça va être super chouette. Juste quelques infos, si vous écoutez cette émission non pas en rediffusion mais au moment où elle passe en direct, on est donc le 24 septembre. Du coup, je donne quelques petites infos. Certaines iront encore si vous écoutez en rediffusion, mais en tout cas, première info, le 27, dans quelques jours, vous le savez, Place Carrière cette année. Attention, c'est Place Carrière, c'est la fête des associations. Vous retrouverez bien sûr le stand des Petites Grandes Âmes, mais également bien sûr le stand de RCN et votre serviteur en déambulation. Mais pas que, il y aura aussi plein de stands, aller à la rencontre de toutes les associations de Nancy. C'est toujours des moments très sympas. Donc là, cette année, c'est Place Carrière, samedi 27. Oh, à partir de 10, 11h du matin. Attends, voilà, oui, c'est sympa quoi. Hein, puis toute la journée. Ça, c'est pour la fête des associations. Je ne fais pas aujourd'hui le briefing de l'animation pour les 20 ans de Goupil, tout simplement parce que le hasard des enregistrements radio fait que je vous en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, dans l'émission Vie associative. N'oubliez pas qu'il reste des places pour la choucroute Téléthon de Harouet le 5 octobre. Et n'oubliez pas que si elle a choucroute Téléthon à Harouet, c'est parce que le Téléthon est lancé depuis le 1er juillet. Vous pouvez mettre en place des actions pour le Téléthon 2025 en contactant la coordination avant d'œuvre, coordination 54, si vous voulez mettre en place une action. Vous le savez, on ne fait pas d'action Téléthon sans l'accréditation. C'est un des éléments qui montre que Téléthon, c'est rigoureux, transparent, bien sûr. Donc, on signe une petite accréditation et on peut se lancer et vendre des crêpes, des ballons ou que sais-je, mettre en place des actions sportives, n'hésitez pas. Voilà, et sinon, toutes les actions qui sont déjà en place, puisqu'il y en a déjà depuis le 1er juillet, tout ça, c'est sur le site de la coordination 54. Vous verrez toutes les manifestations qui ont déjà lieu bien avant les 30 heures télévisées de début décembre. Voilà. Petite info que j'ai pas donnée la semaine dernière aussi, le 30 novembre, je l'annonce chaque année, ça sera la bourse aux jouets Saint-Nicolas à 9 maisons organisées par l'association Océan. Votre serviteur en fera encore une fois l'animation, la déambulation clownesque. 30 novembre, 9 maisons, marché Saint-Nicolas, salle Jean-Lotte et dans le marché couvert, hein, les deux, bien sûr, avec la bourse jouée toute la journée du 30 novembre. Voili, voili, voilou. Et tout de suite, on va demander à David qu'est-ce que c'est que cette émission bien étrange.
Eh bien, c'est une émission du banc de touche. On a fait rentrer les thématiques qui étaient sur le banc de touche, puisque les thématiques de l'équipe principale, elles étaient belles, non pas belles, ne peuvent pas avoir lieu aujourd'hui, malheureusement. Ouais,
parce qu'on avait annoncé, je crois, exactement, une famille et qui...
On rencontrera par la suite.
Par la suite,
mais voilà, un vrai empêchement, un gros empêchement pour le papa qui avait la voiture et qui n'a pas pu rentrer sur Nancy et amener toute sa petite famille dans les studios. Pour rappel, parce que du coup ça va permettre aussi d'expliquer un peu l'émission. C'est une famille avec laquelle je travaille depuis un moment, sur de l'accompagnement scolaire, principalement d'ailleurs avec mon fameux Jean-Claude qu'on a déjà entendu ici, qui est vraiment l'intervenant pilier de l'accompagnement scolaire pour le PRE de Maxéville. Et alors je vais t'embêter parce que il y avait le papa Altine, il y avait la maman, j'ai jamais réussi, j'arrive pas à prononcer son prénom et j'aurais voulu qu'elle soit en studio pour le dire parce que je ne souhaite pas l'écorcher, donc on le redira quand elle sera là. Et leur fille Rebecca, qui rentre au collège cette année. Et pour la première fois en fait, Rebecca est allée, alors pour la première fois c'est faux parce qu'elle est née en Albanie, mais elle est arrivée très 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 jeune, elle avait peut-être un an, elle le redira en France avec ses parents. Et en fait, l'Albanie, elle ne la connaît pas. Elle ne parle d'ailleurs que très peu albanais. Et toute sa famille albanaise, en fait, parce qu'il n'y a pas de famille en France, hein, ils sont, voilà. Et toute la famille albanaise, elle les connaît bien par WhatsApp, par des visios, des trucs comme ça, etc. Et là, pour la première fois l'été dernier, donc l'été 2025, elle est retournée en Albanie avec ses parents, qui eux-mêmes n'y étaient pas retournés depuis 8 ans. Donc ça fait 8 ans qu'ils sont, bah voilà. Donc, comme ça, on a un indice, elle devait avoir un an et demi, 2 ans quand elle est arrivée. Mmh. Elle gardait pas de souvenirs de l'Albanie. Et j'ai discuté un peu avec elle de ça, et juste pour redonner un petit teasing, comme tu dis si bien maintenant que tu t'es emparé de ce langage, quand je discutais avec elle de ça, c'était quand c'était la semaine dernière, je crois, ou peut-être même lundi soir, il me semble, en fin de journée quand je suis allé la voir, elle m'a dit, tu sais, l'Albanie, en fait, c'est vrai que c'est un pays très pauvre, mais en fait, il y avait aussi beaucoup de joie. Et c'est sur cette phrase-là que j'ai dit, vous voulez pas venir à la radio, en fait. En plus, maintenant, elle a grandi. Moi, je l'ai connue, elle était beaucoup plus jeune. Elle est rentrée au collège, donc elle commence aussi à avoir un âge où la radio peut être un outil intéressant. Et la réponse a été un grand oui. Tout le monde est, oh oui, on va venir parler de l'Albanie, on va venir parler de notre été, de nos vacances. Alors, en Albanie, elles auraient pu être ailleurs, au Liban, on se souvient d'un témoignage comme ça. Elles auraient pu être, elles auraient pu être au lac de la Madine, que sais-je. Mais voilà, j'avais vraiment envie qu'ils puissent s'exprimer autour de ça. Et puis, peut-être que si Rebecca aime ce support, on la réentende, peut-être. Dans le courant de l'année, hein, comme on essaie de faire avec beaucoup de jeunes qui passent par ces micros. Voilà. Et puis c'est intéressant parce que pour elle, il y avait toute cette idée de « j'ai grandi en France ». Pour elle, elle est, enfin, je pense que dans sa tête, elle est plutôt française. On en reparlera avec elle, hein, parce que c'est des sujets qui sont intéressants à aborder. Des questions d'identité, et à la fois, effectivement, bah, il y a toute cette famille albanaise à laquelle elle est très attachée, mais qu'elle ne connaissait pas pour de vrai. Elle a des parents qui ont fait toutes les démarches en termes de séjour et qui ont une vraie envie aussi d'être français et de vivre sur le territoire français et d'être français en France, mais ils n'en sont pas moins albanais et attachés aussi à leur pays d'origine, ce qui est parfaitement entendable et parfaitement normal. Et cette question d'identité, bah, je trouve qu'elle est super intéressante, au-delà du fait de parler juste des vacances. Donc voilà, on verra bien dans l'émission comment on peut développer un peu ce sujet-là, est-ce qu'on va dessus ou pas, mais je pense que c'est aussi le fil qu'on peut tirer.
Oui, mais ça devait être un moment d'une très grande émotion à plusieurs niveaux. Enfin, je pense à Rebecca, là, que je ne connais pas du tout, du coup. Mais à la fois pour elle, et je pense qu'elle devait aussi sentir l'émotion de ses parents qui est retournée, etc. Et donc, on sait que les enfants vivent beaucoup les émotions des parents aussi. Hein, voilà, et du coup, ça devait être à plusieurs niveaux de bonheur, un bouleversement intérieur fort, quoi.
Ça sera d'autant plus intéressant qu'ils y sont allés en voiture, et ils sont revenus en voiture. Et en fait, on a parlé beaucoup du voyage. Et c'était super intéressant parce que la maman a montré plein de photos en fait du trajet. Elle a fait plein de photos en Allemagne, en Autriche, en Slovénie. Elle aussi, elle découvrait des choses en fait. Elle disait vraiment, mais la Slovénie, c'est tellement beau. Et ça, regardez les photos des montagnes, des châteaux sur l'autoroute. Tout le monde faisait des photos. Enfin, c'était le récit en lui-même était super intéressant. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir en fait. Vas-y, oui, je te laisse.
Ah non, rien du tout. Tu disais juste que t'étais très fort, parce qu'en parlant de voiture, j'ai l'impression que tu sembles déjà faire la transition vers notre première pause musicale.
Oui, tu m'as vu venir. Hein, ouais. Tu m'as vu venir.
Mais c'est chouette.
Et effectivement, on a un récit de voyage, en fait, qui est vraiment très chouette et qui devient finalement assez rare, mine de rien, parce qu'on prend beaucoup l'avion. Et c'est pas du tout le même type de voyage. Où on prend même beaucoup l'autoroute, finalement. Et c'est pas le même type de voyage. Je me permets de mettre une toute petite anecdote. Cet été, je suis revenu de l'autre bout de la France, de l'ouest de la France, mais sans prendre l'autoroute. Et j'ai redécouvert le plaisir avec des enfants de s'arrêter dans une petite ville à Verneuil-sur-Avre, pour être précis, avant d'arriver sur Paris, encore à la limite de la Normandie. Et en fait, c'était génial parce qu'on a découvert une petite ville qui était allée à 2 km de la route sur laquelle on était. Donc on fait un petit détour, on a pu se poser sur un talus à côté du canal, à l'ombre des tours de la cathédrale, ou de l'église, à l'ombre des tours de l'église qui est magnifique. Et du coup, on a découvert en regardant que cette église avait inspiré un building à Chicago. Du coup, on a regardé ce building en photo grâce au téléphone, etc. Et en fait, c'est des choses qu'on fait pas sur une aire d'autoroute. Mmh. Et là, d'un seul coup, je pense que moi... comme Rebecca dans son voyage et comme finalement des gens qui font ce type de voyage-là en prenant le temps. Alors souvent, on le fait pour des raisons économiques, hein, très clairement. Moi, c'était le cas. Même si effectivement, des fois, on a des avions pas chers. Mais bon, malgré tout, en réalité, on découvre des lieux, des endroits, des pays, des paysages, des choses qu'on ne voit pas autrement, qu'on voit différemment. Et on retrouve ce qui se faisait à l'époque où on descendait dans le sud via une route mythique. Et je pense que ça va être la première pause musicale de cette émission musicale que nous improvisons, entre guillemets, parce que effectivement, malheureusement, les gens qui moi, m'inspirent cette chanson-là ne peuvent pas être là aujourd'hui. On les réentendra par la suite. On écoute Charles Trenet ?
C'est parti.
On y va.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux National 7, on est heureux National 7, on est heureux National 7.
(17h-18h) Réussite éducative sur RCN.
Eh ben c'était très joli, Charles Trenet, on l'entend pas assez, hein. C'était comment déjà son surnom, le fou chantant. Et ouais, je regarde. Ben c'est assez drôle, David, que tu nous aies passé un Charles Trenet, parce qu'en vérité, il y a 2-3 jours, justement, on avait cherché sur YouTube avec ma princesse Adèle pour écouter la mère de Charles Trenet. Et voilà, comme ça, elle avait pu le voir aussi, hein, parce qu'on le voyait, c'était un concert. Et voilà, cette énergie qui est le caractérise tant quand il chantait la mer aussi, et c'est chouette. C'est à la fois des très beaux textes, mais il avait, un peu comme Jacques Brel, je trouve, dans l'interprétation, il vivait souvent les textes.
Hein, et puis on sent tout ce qu'il y a de... je trouve intéressant aussi parce qu'on sent, et tout le monde ne le perçoit pas systématiquement, mais on sent tout ce qu'il y a aussi de blessures et de... Oui. De déchirements en fait chez lui qui sont très présents, et quand on écoute, je pense à Mes jeunes années, parce qu'il y a des chansons plus explicites sur ces sujets-là, mais quand on écoute Mes jeunes années, c'est une chanson que je trouve à la fois y a une vraie gaieté, mais il y a une vraie mélancolie, mais on sent que derrière il y a des expériences qui sont pas formidables, et en fait c'est ça que je trouve intéressant, comme il arrive à faire passer des choses de manière très très fine et très en filigrane derrière. On sent que c'est là, mais c'est pas explicite non plus, et si on n'y prend pas garde et qu'on n'écoute que d'une oreille, on les perçoit pas. Puis d'un seul coup, quand on y met un peu plus d'oreille, qu'on écoute un peu plus les mots, on se dit, il y a des trucs derrière, il y a des choses, et c'est très intéressant. Bref, dans ces déchirures-là, et dans ces questionnements-là, on retrouve effectivement les questions d'identité, alors pas nécessairement chez Charles Trenet, quoique... Douce France finalement est super intéressant si on le remet dans le contexte de l'époque où la chanson est chantée, et si on pense à la reprise par Carte de Séjour avec Rachida dans les années dans les années 80 je crois, où justement la question de l'identité va se poser, puisque repris par des gens qui sont alors issus de l'immigration ou immigrés, je sais pas Carte de Séjour exactement quelle était la composition du groupe, et qui s'emparent de cette chanson là et qui la font leur, et c'est super intéressant. Et j'en viens à ça justement parce que pour le titre suivant, c'est cette question de l'identité de qui on est, en fait, moi, elle revient très très souvent dans les relations, les discussions avec les jeunes et avec les familles que je peux rencontrer. On l'a évoqué tout à l'heure, justement, sur la question sans souffrance, par rapport à Rebecca. En tout cas, elle nous en dira plus, mais moi, dans ce que je connais d'elle, c'est sans souffrance, avec une attente, avec une envie, avec une impatience de connaître, mais pas de questionnement important derrière. Par contre, moi, je rencontre aussi des jeunes qui sont, et des familles qui sont parfois un petit peu perdues par rapport à ça, pour qui c'est très compliqué, parce que en fait c'est un classique, hein, ça a été dit et redit, mais je pense que c'est important de le redire encore, c'est toujours cette question de on est né en France, pour la plupart des jeunes moi, avec lesquels je travaille, nos parents ou nos grands-parents plus souvent ne sont pas français au départ, sont arrivés en France. Nos parents ont pas toujours été considérés comme des Français comme les autres. Je sais plus qui est-ce qui dit qu'il a. C'est dans une chanson, ça aussi, qui a réalisé à un moment qu'il était noir, qu'il n'avait pas compris qu'il était noir, en fait. Et c'est quand. C'est dans le regard des autres, arrivé à un certain âge à l'école, qu'il a compris qu'il était pas pareil. En tout cas, dans le regard qui était porté sur lui. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, comme l'enfant très jeune, du coup, n'a pas du tout cette conscience-là. Et à un moment, il réalise qu'il est un étranger, il n'était pas au courant lui-même. On a la même chose, il y a un auteur croate, je crois, Smederovic, je crois, son nom de famille, j'ai un tout petit doute comme ça de tête, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Le peuple minoritaire, et où il explique comment, de l'éclatement de la Yougoslavie, comment d'un seul coup, il passe de « je suis yougoslave » à « je deviens le peuple minoritaire au sein d'un autre ensemble ». Et ça aussi, il dit, moi j'ai rien demandé, en fait, j'ai rien fait, j'ai pas bougé un cil, mais j'ai changé de statut, je suis plus la même personne. Et la réalité autour de moi s'organise autour de ça. Et je trouve que c'est super intéressant, ces questions-là. Et effectivement, nous on a des jeunes, on sent qu'ils sont pas bien, entre autres aussi à cause de ça. Parce que ils vont questionner ça, c'est-à-dire, des fois, dans le regard des autres, on sent qu'on n'est pas un Français comme les autres. Et puis quand on retourne dans le pays de nos parents ou de nos grands-parents, bah on sent qu'on n'est pas non plus, on n'appartient plus à ce pays-là non plus. Et on parle souvent des familles algériennes, des fois, qui sont dans cette situation et qui tiennent ce discours-là. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages très intéressants et qui disent, voilà, on est très heureux de retourner en Algérie parce que c'est le pays d'où on vient, mais quand on est là-bas, on est vu comme les Algériens de France. Et quand on revient en France, bah des fois, c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui nous expliquent qu'on est des Français algériens et pas vraiment des Français. Et pour des enfants qui se construisent, parce qu'il y a la question des adultes, hein, bien sûr, mais pour des enfants qui se construisent, bah, nous, on récupère des enfants qui sont plein de questionnements par rapport à ça. Et en plus, c'est des questionnements souvent qui ne sont pas formulés, qui ne sont pas explicites, ils sont un peu perdus avec ça, en fait. Et puis, les parents eux-mêmes n'ont pas forcément la facilité à répondre à ça, parce qu'ils ont aussi des choses à gérer par rapport à ça. Et puis, pour finir, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles avec lesquelles je travaille, dans lesquelles il y a assez peu de transmission de l'histoire familiale. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a des jeunes, pour reprendre l'exemple des jeunes qui sont d'origine algérienne, mais qui sont nés en France et qui sont bien français, ils ne réalisent pas et ils comprennent pas qu'ils peuvent avoir un grand-père ou un arrière-grand-père qui peut avoir vécu ou combattu pendant la guerre d'Algérie, qui concerne au premier chef le pays dont ils sont originaires. Et pour eux, c'est une histoire qui n'est pas claire, qui est assez loin. C'est même pas qu'elle est lointaine, c'est qu'elle n'est pas très claire quand même elle est connue. Alors que c'est vrai que quand on pense à nous, ce qu'on connaît, en tout cas ma génération et sûrement la tienne aussi, il y a la question, l'histoire des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., qui ont fait la Première Guerre mondiale, etc. Souvent, c'est quand même présent dans les familles. Et là, je me rends compte que le, je sais pas du tout, et c'est là que ce serait intéressant d'avoir des témoignages, est-ce que c'est lié justement au fait d'avoir émigré qui provoque une rupture dans l'histoire familiale, mais cette histoire, je la trouve, et c'est que de mon expérience personnelle avec les familles que je connais, souvent assez peu transmise. Là, je parle de l'Algérie parce qu'il y a une histoire particulière aussi entre la France et l'Algérie, mais c'est vrai en fait avec, je pense à une famille qui vient de Madagascar, dans laquelle je retrouve la même chose, des familles qui viennent de Mayotte, qui est maintenant en métropole, qui est maintenant en France, où la question se pose aussi, et moi, c'est un truc que je pense qui mériterait à être rendu explicite et qui mériterait d'être accompagné pour essayer de se sentir au clair et de se sentir bien avec tout ça. C'est-à-dire avec ces identités multiples et qui provoquent des injonctions en plus. Être un bon Français, être un bon musulman, être un bon Algérien, un bon Marocain, un bon ce qu'on veut. Et à un moment, on fait quoi de tout ça? Parce que c'est des injonctions qui sont tellement contradictoires. Enfin, voilà. C'est pour moi un thème très important à travailler avec les enfants. Et pour finir, on parle beaucoup de santé mentale des adolescents. C'est tout un pan de ce qui compose la construction de soi qu'il ne faut pas oublier. Avec des enfants qui ne sont pas originaires de France depuis 2, 3, 4, 5, 6 générations.
Ouais. Tu sais, en t'écoutant, ça me fait penser à plein de choses, quoi. C'est quand on entend les politiques. Parfois, certains bords de l'échiquier politique qui font une fixation sur ceux qui ont des origines étrangères, etc., et qui font une fixation sur leurs devoirs, etc., etc. Je les entends pas beaucoup parler aussi de tout ce qu'on peut mettre en place pour justement les aider dans la construction de leur quête d'identité et d'arriver à construire cette nouvelle identité. Je trouve qu'il n'y a pas assez ce discours-là. C'est tout de suite, il faut que une adaptation, un respect d'eux, etc. C'est super brutal quand on sait que pour un enfant, lui, il est en quête d'une construction, d'avoir des solidités dans des références, d'un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, et j'entends peu dans certains échiquier de la zone géographique de la politique, j'entends peu de discours apaisants sur comment faire pour intégrer.
L'idée du discours apaisant pour nous, c'est enfin parce que là, effectivement, on touche à des questions qui sont également politiques. Après, moi, je me place du point de vue de mon travail, c'est-à-dire que dans mon travail, si on n'a pas ce discours apaisant, si on n'a pas des choses qui sont facilitatrices pour permettre aux enfants et aux adolescents de se construire, on pédale un peu dans la semoule quand même, quoi. C'est quand même un petit peu compliqué. On est à contre-courant finalement d'un discours médiatique souvent qui devient dominant, et c'est très très compliqué en fait d'essayer de travailler sur la complexité des êtres et de les accompagner là-dessus quand effectivement ils sont soumis à ça en parallèle. Et ça provoque de la colère, hein. On a des jeunes qui sont en colère et qui ont du mal de l'expliquer, mais ça provoque une colère parce qu'on se sent pas à sa place quoi qu'on fasse et où qu'on soit. Et petite transition du coup avec la pause musicale suivante, il y a un garçon qui s'appelle Rossé qui a pas mal d'années, je pense que le titre a peut-être une bonne vingtaine d'années, qui avait écrit là-dessus, justement sur le fait d'être originaire, d'avoir plein d'origines et d'influences différentes, et à un moment se révolter et de ne vouloir répondre à aucune des injonctions d'aucun de ces milieux. Je propose qu'on écoute Le Métèque, qui je pense est une référence et un hommage très clair à François Cavanna. C'est Cavanna, Le Métèque, je dis une bêtise?
Moustaki,
oh là 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 là, je sentais bien que je disais une bêtise. Et ça aurait pu être Cavanna, hein.
Bah oui, tout à fait.
Voilà, en tout cas c'est un texte que je trouve intéressant sur ce sujet-là, on écoute Rossé.
Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte, étudiant noir, drapeur blanc, je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte, étudiant noir, drapeur blanc, je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. On dit que les humains s'organisent en tribus, je titube en passant de l'une à l'autre et je me situe. Au beau milieu du vide, dans mon être qui de visu n'aurait que le besoin de se sentir individu. Mais les patries se soudent et je glisse entre elles comme un savon. Que les préjugés mouillent, mais l'isolement forme les bulles qui me lèveront. Et dans ma tête, ma propre histoire, mon propre jargon me rend seul, indépendant et grand garçon qui espère ne jamais, ah s'il savait, faire tant de manières, avoir tant de fragilité, rendant si limité quand ils se blottissent dans la chaleur de leur communauté. Que j'aime les regarder dans la froideur d'une objectivité. Le courage en groupe est facile, on partage les craintes. Les opportunistes ouvrent leurs pistes, je ne réponds pas à l'appel. Je ne mange pas dans cette gamelle, mes pieds ne vont pas dans l'empreinte. Arabe loin d'SOS racisme et je suis très loin d'Israël. Oh combien ce serait facile de suivre le groupe, n'importe lequel, tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe. Mais je redoute qu'on veuille me modeler coûte que coûte. Rien à foutre, je resterai seul sur la route médisant les troupes. Avec ma tête de métèque, de juif errant musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, grappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque, de juif errant musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, grappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Je fais partie des nations les plus haïes du monde, mais avec l'âge, je tape le monde, tout le monde. J'ai une planète dans la tête qui a des pics nauséabondes, loin d'un pays qui tolère. Car l'identité, je me crée un monde qui l'accepte. Chapeauté qui fait tant de lieux pour voir de ses yeux. Près de la terre et loin des cieux, je préfère le bas-côté. Près de la terre et loin des cieux, athée, oh grâce à Dieu. Aucun ne m'aurait toléré et lequel je tolérerai. Je m'affirme seul, loin de l'entonnoir intégration qui m'amputerait de mes ancêtres pour que je glisse sans frottement. Détacher ma culture et mon nom pour rentrer dans le rang, c'est l'assimilation et c'est de la mutilation. Et devoir s'intégrer à un pays qui est déjà le sien, c'est flairer, se mordre la queue, donc garder un statut de chien. Quand je ne peux séparer les cultures qui m'ont fait un, m'en retirer une partie, c'est ôter tout l'être humain. Faudra compter dans ce présent à ce que je ne sois un néant, mais plutôt un exemple vivant avec ce double tranchant qui ouvre les plaies encore fraîches d'un pays intolérant. Je ne séparerai pas mon être, que chacun y voit ses démons. Oh combien ce serait facile de suivre le groupe, n'importe lequel, tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe. Mais je redoute qu'on veuille me modeler coûte que coûte. Rien à foutre, je resterai seul sur la route médisant les troupes. Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, drapeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, drapeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans.
Réussite éducative sur RCN.
Bah, c'était super chouette, mais t'avais raison, on voit très bien la filiation avec Moustaki, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, mes cheveux aux quatre vents. Alors là, ça, je connais par cœur. Alors là, c'est que j'ai 45 tours à la cave, c'est super comme scoop, non?
C'est pas mal.
Ah non, mais j'adore.
C'est pas mal.
Si, si, puis Moustaki, il est beau sur ce 45 tours-là, justement, avec ses cheveux au vent comme ça. Ouais, ouais, c'est, on voit la référence, mais j'apprécie, moi, que dans les musiques, il y a une, l'inscription dans une filiation comme ça, parce que ça ouvre ouvre le champ aussi de réflexion.
La filiation et la transmission, tu vois, j'ai pas moi là dans ma position à porter de jugement sur la notion d'intégration. Par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est que je suis très attaché à la notion de filiation et de transmission. C'est-à-dire comment on intègre sans remplacer une filiation qui correspond au pays dans lequel on s'installe. Juste l'exemple très simple, c'est j'en ai déjà parlé ici, mais je le redis parce que là je trouve que ça correspond vraiment. Une jeune fille qui venait du Soudan, Niger, je ne sais plus. Toute jeune, elle avait 4-5 ans. On avait été visiter le musée de l'école de Nancy et elle avait. C'était le musée de l'école de... Oui, ça doit être le musée de l'école de Nancy. Et elle avait récupéré son ticket. Le ticket d'entrée, sur lequel il y a toujours des reproductions d'œuvres, et c'était Émile Friant, alors c'était un Friant, je ne sais plus lequel, et elle m'avait demandé c'est qui le monsieur, je dis bah c'est Émile Friant, c'est un peintre, etc. Alors c'était marqué derrière, elle lisait déjà relativement bien. Pardon. Et en fait, elle l'avait accroché, elle vivait dans un foyer, hein, elle avait une petite chambre avec sa mère, elle avait une histoire terriblement cruelle, je trouve, en plus, avant leur arrivée en France, et toujours assez cruelle d'ailleurs après leur arrivée en France. Et cette gamine, qui était d'une culture radicalement différente, eh ben, elle avait ce petit truc de Friant au-dessus de son lit, et je me dis que bah on sait ce que c'est dans notre chambre d'enfant, les choses qu'on était accrochées, on les mémorise énormément. Enfin voilà, c'est des trucs qui nous restent parce qu'on les voit tous les jours. Et en parlant avec elle, oui, tous les jours elle regardait ce tableau parce que je crois que c'est les amoureux là, les deux amoureux, je sais plus le titre exact. Elle le regardait et elle disait c'est Émile Friant, c'est Émile Friant. Et je me dis cette gamine quelques années plus tard peut-être, j'en sais rien, mais à 8-9 ans, elle va visiter le musée des Beaux-Arts avec sa classe. Voilà, elle connaît ce tableau, elle dit « mais c'est Émile Friant, etc. » Je trouve ça chouette que cette gamine-là, qui, de son pays d'origine, a ramené plein de choses, bah, elle ait cette filiation-là aussi, et de permettre une double, une triple, une quadruple filiation, une filiation infinie, en fait. Et de dire « voilà, je ne souhaite pas te contraindre à rentrer dans un cadre, dans un moule précis pour être acceptable. Par contre, je souhaite te transmettre des choses qui te permettront d'avoir des références communes avec la culture et le pays dans lequel tu t'installes. » Et c'est un petit peu, je trouve, une approche plus apaisée.
Oui, voilà, exactement.
En réalité, qui permet peut-être, à mon avis, une construction, en tout cas moi je l'expérimente professionnellement, une construction de plus apaisée et moins, voilà. Alors c'est des petites gouttes d'eau, c'est des petits grains de sable comme ça, mais je trouve que c'est important.
Bah, qui est moins sur le registre de l'injonction,
c'est une injonction,
mais plus d'un partage.
Exactement. Et je pense que là, on peut pas demander l'un sans proposer l'autre.
Ouais.
Voilà.
Exactement.
En fait, même si effectivement on doit demander l'un, mais il faut proposer l'autre. Sinon, on est. Je pense qu'on. En tout cas, moi, dans mon boulot, je peux pas faire autrement. Ce serait pas pertinent.
Bah, surtout, c'est ton boulot face à un enfant, parce que l'enfant n'attend pas qu'on lui conceptualise les choses, qu'on lui intime les choses, mais justement qu'on lui permette d'entrer dans les choses justement avec apaisement, et c'est une autre démarche, je trouve.
Ouais, bah c'est la notion d'accueil quelque part.
Ouais, c'est ça.
Oui, voilà. C'est l'idée de l'accueil et du partage. Je trouve que c'est voilà, c'est des choses qui sont pas innocentes. Parmi les thématiques qu'on a déjà abordées, qu'on abordera sûrement cette année, je regarde un petit peu l'horloge aussi. Je me dis qu'on a plus tant de temps que ça. On parle beaucoup ma foi.
Puis on a des belles musiques.
On a des belles musiques. On a la question des relations familiales et des relations intrafamiliales. Alors pareil, je pense que mes collègues qui étaient là. L'émission précédente pourrait en témoigner. On a souvent des fratries qui sont, enfin des familles qui sont un petit peu éclatées, un petit peu en conflit, un petit peu voilà. Alors c'est pas que dans notre travail, il y en a plein des familles comme ça. Et puis des fois on a un bout de la famille où ça va bien, puis un autre côté où c'est beaucoup plus compliqué. Enfin voilà. Et moi je me rends compte en travaillant aussi avec les jeunes que des fois ils sont aussi un petit peu perdu avec ça, et on en revient à cette question d'identité finalement, hein, même si là on n'est pas sur les questions d'émigration, immigration, mais sur les questions de relations intrafamiliales. Et moi je me suis retrouvé avec des jeunes qui étaient vraiment très 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 mal dans leur peau, et où un des outils, c'est un outil parmi d'autres, hein, parce qu'évidemment il y a tout le travail des psychologues, etc., qui font un travail immensément plus important que celui-là, mais je trouve que celui-là reste important aussi, c'est de se dire, mais si on s'amuse à dessiner ta famille, donc on part de l'arbre généalogique, hein, bien sûr, si on s'amuse à dessiner ta famille, t'es où toi là-dedans? Et c'est quoi tes relations avec les gens, etc. Et c'était rigolo parce que moi j'ai plusieurs jeunes comme ça qui se sont rendus compte un petit peu de quelle position ils avaient dans la famille, en disant on pose ça sur le papier et on le regarde. Alors des fois c'est un foutoir et on comprend qu'ils soient perdus parce que bah, la vie étant ce qu'elle est et les relations humaines étant ce qu'elles sont, des fois il se passe des trucs extrêmement improbable et on se retrouve à dessiner quelque chose qui est ou même moi je mets 1000 ans à comprendre. Je suis alors attends, tu m'as dit que quoi? Mais c'est intéressant parce que justement on pose ces questions là. Tu m'as dit qu'un tel c'était qui? D'accord, ah oui, c'était le compagnon de, il s'est marié avec, du coup sa fille c'est, ah ok d'accord. Et en fait en me posant moi-même ces questions, en essayant moi-même de comprendre, bah du coup lui il se pose aussi ces questions là et il arrive à se positionner et à mieux comprendre un petit peu qui il est. Alors moi je résous rien en faisant ça, par contre je lui donne des outils qui vont être utiles quand il va travailler justement avec des professionnels autour de ça, que ce soit en médiation familiale, voilà, en psychologie, en, etc. Et ça lui permet aussi d'avoir les idées un petit peu plus claires. Et voilà, c'est la petite pierre. Des fois, alors je le fais très ponctuellement, hein, évidemment, tous les enfants que je rencontre, on fait pas ça, c'est même assez rare. Quand on le fait, c'est qu'on sent qu'ils sont vraiment, vraiment paumés. Et puis à côté de ça, on a aussi ceux qui, surtout chez les ados et chez les parents, ceux qui expriment une nostalgie, une mélancolie d'avoir perdu une relation, en fait, que ce soit avec son enfant, hein, des fois les ponts sont coupés, il est où mon enfant quand il avait 6 ans qui était si adorable, etc. Ben, il a 15 ans, c'est infernal, enfin voilà. Et on sent vraiment une perte autour de ça, des fois effectivement d'une relation entre un frère et une sœur, entre un frère et un frère, en tout cas de relation dans une famille comme ça. Et des fois il y a des séparations aussi qui sont très compliquées, pareil, des trucs très classiques, hein, un enfant, séparation qui est comme dans la plupart des cas à la garde de sa mère, et du coup il y a une rupture avec la famille du père. Puis des fois, même si la relation avec le père était difficile, on aimait bien un oncle, on aimait bien des cousins ou des cousines, etc. Et on se retrouve séparés d'eux. Et il y a une vraie perte, en fait, là-dedans. Alors, bah voilà, après, les gens, ils vivent leur vie. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. C'est eux qui sont maîtres et maîtresses de tout ça. Par contre, on peut en parler. Et le fait de le parler, de le formuler, de dire explicitement, bah oui, moi, mon cousin me manque, bah oui, moi, etc., etc., c'est déjà quelque chose. Après, ça peut rester impossible, mais c'est déjà quelque chose de se l'être dit explicitement, puis de d'avoir pu le dire à ses parents aussi, expliquer qu'on souffre de ça, et voilà, même si on pourra peut-être pas y faire grand-chose. Donc voilà, ça aussi c'est un gros sujet.
Ouais. T'as abordé plein de choses différentes là, qui me touchent effectivement, et je pense que touchent les auditeurs, parce que dans tout ce que le panel que tu viens de faire sur les séparations, sur autres, je pense que ça touche forcément, ça nous touche un peu tous. Et ce besoin, hein, de s'inscrire dans une histoire, soit géographique, comme tu disais tout à l'heure, soit généalogique. Je crois que pour un enfant, c'est important. Tu vois, ma princesse, en ce moment, elle me dit souvent « Oh, j'aimerais connaître mes cousins-cousines, ou, etc. » Alors, parce que nous aussi, c'est une famille très... Voilà, qui a ses fractures et ses absences de relations, et c'est marrant que voilà, les enfants ont des fois besoin de connaître des gens. Bah, ils les connaissent pas du tout, mais ils en sentent, on sait pas pourquoi.
Mais ils sont importants, ils ont une place malgré tout, même s'ils les connaissent pas. Ouais, tout à fait.
Ouais, c'est curieux, hein. C'est important dans la construction finalement.
C'est très important. Ouais. Et je propose qu'on écoute pour le coup. Alors, j'ai jamais su comment ça se prononçait. J'ai toujours un doute parce que je n'ai jamais entendu le nom de cet artiste prononcé oralement.
Johnny Adamo.
Pas du tout, parce que cela c'est facile. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en général. D'ailleurs, P.R2B, la chanson Mon frère.
Je me croyais invincible quand je courais avec toi. Mon frère, tout était possible, même si tu n'as pas le même sang que moi. Je t'ai connu à l'école et je ne t'ai jamais quitté. Et aujourd'hui je t'appelle pour parler. Rappelle-toi les journées, les heures perdues à creuser le jardin. On s'était dit que les journaux nous colportaient des salades. Et dans le trou on croyait pouvoir entendre les Indiens. C'était si bon de voler qu'on s'en est rendu malade. Les étoiles filaient sous nos cieux, un vœu pour chaque destin rêvé. On n'aurait jamais pu rêver mieux. Dans une Clio, on s'est dit qu'on s'aimait. Mon frère, le monde a devenu fou. Quand je ferme les yeux, je te vois. Restons les enfants qu'on fait de nous. Le vent se lève, mais moi je ne bougerai. Rappelle-toi quand on est allé frapper aux portes du quartier. Êtes-vous d'accord avec la peine de mort? C'est pour la télé. Nous on militait contre pour la vie et pour les idées. Ils n'étaient pas du même avis mais ils ont changé d'idée. On a adopté un chien sur la plage. On a rêvé de n'être jamais sage. Et On voulait vivre comme au Moyen-Âge. On n'était vraiment pas très fort pour draguer. Je t'ai vu crier, tu m'as vu pleurer. On peut compter sur les doigts les fois où l'on s'est quitté. Je t'ai vu prier, tu m'as vu chanter. On peut compter sur les doigts les fois où l'on s'est détesté. Mon frère, le monde a devenu fou. Quand je ferme les yeux, je te vois. Restons les enfants qu'on fait de nous. Le vent se lève, mais moi je ne bougerai pas. Jamais il n'y aura de jamais. J'aimerais te dire des âneries. J'avouerai mes mensonges après. Je profiterai de la vie. J'irai sonner chez toi la nuit. J'aurai trop bu mais je rirai. Jaloux tu feras pire. Tout jusqu'au lever du jour. Jamais il n'y aura de toujours. Je t'ai perdu parfois mon frère. Et les heures défilent et courent. Pire que pendant les concerts. Toujours plus de fou de folie. On voudrait changer de façon. Tes yeux bleus se noient dans le gris. Moi je porte le noir sur le front.
Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard.
C'est assez rare, David, que je dise ça, mais là, waouh, ta pause musicale m'a super ému.
Et oui, tu vois que dans les années 2020, il y a des gens qui font des choses bien aussi.
Ah, c'était dans les années 2020?
Non, je sais pas de quand date le titre, mais c'est récent en tout cas.
Tu sais, ça me fait penser à plein, on parlait de filiation musicale. Ça me fait penser, bien sûr, alors là tu vas me dire c'est à cause du titre, c'est trop cliché, mais en même temps moi qui connais le texte par cœur parce que c'est une des chansons qui fait pleurer, une des trois chansons qui font le plus pleurer, c'est bien sûr Maxime Le Forestier, toi le frère que je n'ai jamais eu,
oui.
Sais-tu si tu avais vécu, etc. etc. Mais ce texte magnifique également, et puis je sais pas pourquoi, si en écoutant ta chanson, là, je sais pas, je pensais à alors ça rien. Ah, tu vas rigoler. Ah, Bang Bang, tu sais, de Sheila, là. Tu sais, cette espèce de force qu'a la chanson. Bah, tu connais pas, apparemment.
Mais je crois que je la connais pas. Ouais.
Et bah, fait, c'est pas grave. Et qui parle pas de frères et sœurs, mais je trouve que c'est ces textes-là qui sont d'une nostalgie, mais très fort, tu vois, d'une émotion, voilà, de cette quête du passé, quoi.
Exactement.
De ressaisir le passé. C'est... Ouais, il voilà, faut... c'est ça.
Ah, oui,
ça te dit quelque chose? Rien que la musique, tu vois.
Oui, j'ai déjà entendu, effectivement, mais elle m'est pas familière en tout cas.
Ouais. Et ben, oui. Ah, il est fort, Jean-Luc. Hein.
Mais
et
oui,
ben,
oui.
Je trouve qu'il y avait ça aussi dans ta chanson. De retour douloureux sur le passé avec ce désir qu'on a tous de vouloir le ressaisir, de retoucher à la quintessence du souvenir. Et il y a ça dans. Très jolie, la chanson que tu nous as.
Et si on en est à ça, je vais peut-être te surprendre aussi, puisque du coup, on est censé avoir un conflit musical, on le dit à chaque fois, on est censé, mais tout ça c'est du théâtre. Il y a Yves Duteil avec La tendre image du bonheur aussi.
Ah, ouais, et puis il en a sur des ce, belles là-dessus.
Ah voilà,
ouais.
Et là, cette chanson-là, autant Yves Duteil, moi je suis pas bon bof, mais alors cette chanson-là et ce texte-là, La tendre image du bonheur, wow, ça fait pleurer systématiquement, c'est obligé de pleurer. Et sur la question de la famille, de la mélancolie, du temps qui passe, etc. Oh là là là, c'est un monument. Et c'est intéressant parce que tu vois l'idée du Duteil qui se remémore effectivement ces scènes, les odeurs, les sensations, etc. de l'enfance, mais avec une distance douloureuse en fait. On était allé en séjour, on était passé une journée dans les Vosges avec des familles, et il y avait une dame née en Algérie mais qui a grandi dans la montagne en Italie, et puis à très loin de tout. Alors pourtant elle est plus jeune que moi, hein, mais c'est quelqu'un qui avait vécu dans un village extrêmement reculé dans les Alpes italiennes. Elle dit qu'elle a découvert internet à 17 ans, elle a découvert tout ça, elle savait pas que ça existait, enfin elle avait jamais expérimenté. En tout cas elle a quitté son village pour venir en France en fait. Quand on allait dans les Vosges, c'était vraiment rigolo. On était à Ventron, si je me souviens bien. Il y a un lavoir à Ventron, là, pas très loin de l'église. Et là, elle s'est arrêtée et elle a commencé à raconter à sa fille, qui avait à l'époque peut-être 8 ans, 7-8 ans. Elle a commencé, mais tu vois, ça, je suis contente de voir ça, parce qu'en fait, c'était comme ça quand j'étais petite, tu vois, dans la montagne. On avait aussi des lavoirs comme ça, mais c'était vraiment là qu'on venait chercher l'eau, parce que on n'avait pas toujours de l'eau au robinet, etc., etc. Et elle s'est mise à raconter un peu sa vie dans la montagne en Italie, sa vie de jeune Algérienne dans la montagne italienne. Et c'était super parce que sa fille, en fait, est restée fascinée par ce récit-là, parce qu'en fait, elle ne l'avait jamais entendu. Et on rebondit sur tout ce qu'on dit depuis le début, cette question de « c'est quoi l'histoire de mes parents, en fait ?» Voilà. Et encore une fois, moi, je rencontre souvent des familles où on ne connaît pas l'histoire de ses parents, en fait. Elle n'est pas racontée, ce n'est pas un sujet. Parce que, alors, pourquoi exactement, je ne sais pas. Moi, je fais des interprétations parce que je ne suis pas à la place des gens. Mais j'interprète ça souvent par, c'est souvent des parcours un peu difficiles où la priorité, ce n'était pas ça. Priorité, c'est trouver un logement, payer des factures, trouver à manger, que ça se passe bien à l'école, que blablabla, aller au rendez-vous de ci, au rendez-vous de ça. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça et on ne prend pas ce temps et on oublie de le prendre, même si on pourrait, même si des fois, ce temps-là existe, mais on oublie de le prendre parce que bah, on est fatigué aussi. C'est fatigant de transmettre son histoire, c'est pas un truc simple. Il faut avoir des temps pour ça. C'est aussi ça, moi, que j'essaie de favoriser assez souvent dans mon boulot, c'est-à-dire des moments où les parents et les enfants peuvent discuter. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et dans toutes les familles, ouais. Hein, je m'inclus dedans. Hein, des fois, j'aimerais passer plus de temps à juste discuter avec mes enfants, mais il y a tellement de choses à faire au quotidien et tellement d'injonctions en tant que parent.
Oui.
On en a déjà parlé dans d'autres émissions avec Claire, dans ses chroniques, etc. Ouais. Tellement d'injonctions à remplir qu'on perd aussi du temps pour juste discuter. Et c'est dommage. Ouais, et en particulier dommage. Dans ces parcours-là, évidemment.
Ouais. Et des fois, on se retourne, on se dit, mince, là, on vient de passer une semaine à courir.
À courir, ouais.
Et on n'a pas assez pris le temps. Et c'est pour ça... Tout à l'heure, dans l'émission de la semaine passée, il y avait une petite allusion à ces téléphones, ces machins, ces trucs. Ouais. Et moi, je continue de penser qu'il y a une perdition du temps, des repas, des discussions, alors qui peuvent saouler dans une fourchette d'âge où on a tous été un peu ingrats, qu'on appelle la préadolescence, l'adolescence, où on met un peu, je vais parler jeune là, des vents. Des tentatives d'ouverture des parents.
Ça aide à mettre de la distance aussi, hein, ces outils, ces outils-là. Mais...
Ouais. Mais quand on y repense plus tard, on se dit... tu vois, on parlait des chansons, la filiation. Mine de rien, là, une des trois autres qui me fait pleurer, c'est bien sûr Daniel Guichard, mon vieux.
Ah, oui.
Lui aussi, tu sais, cette prise de conscience de la fin de la chanson du « Il sera toujours désormais trop tard », à un moment donné, quand ça nous saisit et qu'on... Alors forcément, il faut relativiser parce qu'on l'a tous fait, et nos enfants le feront aussi, de nous mettre ces fameux vents quand on fera des tentatives d'ouverture très profondes dont ils ne prendront pas conscience parce qu'ils seront dans un âge où il est nécessaire pour eux de se détacher, alors que c'est des moments où nous, on fait peut-être à ce moment-là pile une ouverture très profonde sur notre passé. Bah, on l'a tous fait, mais quand on y repense bien des années plus tard, c'est extrêmement douloureux. Du coup, ça l'est encore plus si dans nos vies actuelles, il y a encore moins... de temps accordé à cette possibilité de rencontre entre une phase d'écoute et une phase de j'ai envie de parler.
Ouais, tout à fait,
si on en a moins, c'est dommage, encore plus quoi. Ouais. C'est marrant, t'as la même toux que la semaine dernière.
Ouais, bah oui,
ça fait une semaine que tu traînes la même toux.
C'est quand même très curieux. On l'a peut-être moins entendu la semaine dernière parce que je parlais beaucoup moins. Mes collègues, du coup, de la semaine dernière, d'ailleurs, ont aussi évoqué cette question des écrans. Alors, c'était dit sous le terme des écrans avec le projet, entre autres, du PRE de l'AXOU. Et je crois que c'est un peu plus large que le PRE. Hein, ça, mais voilà. Et finalement, on retrouve là cette question-là. Comment dire? C'est la question du juste milieu, c'est-à-dire que moi je reste convaincu aussi qu'il y a certains de ces outils-là qui sont intéressants. Après c'est toute la question de à partir de quel âge, quand, comment, dans quel contexte, de trouver des moments qui sont adaptés. Mon Dieu, je vais survivre. Cette question-là des écrans, je la trouve marrante, puisque du coup on est sur cette émission musicale qui permet de brosser un petit peu un certain nombre de choses qu'on voit et qu'on rencontre, enfin que je rencontre moi professionnellement... Avec les enfants et les familles. Et cette question des écrans, c'est comment trouver un juste milieu, en fait. Et c'est très compliqué, j'ai l'impression, de trouver ce juste milieu, en particulier avec la question des réseaux sociaux, bien entendu, qui sont... Alors, je mesure toujours le truc, parce que moi, je me souviens, quand j'étais ado, le problème, c'était les jeux de rôle et les jeux vidéo. Maintenant, les jeux de rôle et les jeux vidéo, c'est vachement sympa, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et finalement, on se dit, ah, finalement, c'était peut-être pas si mal. Mais quelque part, j'ai tendance toujours à nuancer un petit peu les choses, à se dire... essayons de prendre du recul sur les choses. Malgré tout, il ne faut pas ignorer, et les alertes de professionnels sont nombreuses, y compris de professionnels d'ailleurs du numérique, sont très nombreuses sur on a vraiment un vrai problème avec ça, aussi bien les adultes que les jeunes, ne l'oublions pas, parce qu'on l'a dit aussi la semaine dernière. D'autant plus que maintenant, effectivement, la question des réseaux sociaux vient aussi questionner le rapport à l'actualité, le rapport à l'information, à la vérité, etc. Et où là, c'est une question qui se posait quand même moins avec les formes précédentes. Je propose une petite pause musicale et puis après, on pourra terminer l'émission là-dessus. Mais une petite pause musicale qui évoque en tout cas ce sujet-là avec Mansfield Tia, qui était un groupe que j'aimais beaucoup, qui s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça et qui est un petit peu dans lequel on trouvait entre autres Rebecca Warrior, qui continue sa carrière et qui est une personne que j'admire énormément. Je suis bien content de passer cette pause maintenant.
À 18h, réussite éducative sur RCN.
Alors, bien sûr, David, je ne sais pas si c'est le cas pour les auditeurs, mais en tout cas, pour moi, cette émission-là, c'est un enrichissement musical. J'ai beaucoup de pauses musicales dont j'ignorais totalement l'existence.
Oui, et ben voilà. Et ben là, on vient d'entendre effectivement cette question de, du brouhaha des réseaux sociaux qui est assourdissant, fatigant, dont on veut fuir pour se réfugier dans le monde du silence. Qui soit dit en passant, Monsieur Cousteau nous a raconté des bêtises parce que l'océan est extrêmement bruyant et il y a plein de bruit dedans. Allez à l'Océanopolis de Brest, ils vous expliqueront ça très bien. C'est un super endroit. Océanopolis, ouais, Océanopolis, j'ai un petit doute sur le nom. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette idée que voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Précisons-le. Et puis cette question d'une fois qu'on s'est mis dans ce monde du silence et qu'on s'est retiré complètement de ces discussions, de ces alarmes, de ces alertes, de cette immédiateté des réseaux sociaux, et ben en fait elle explique aussi comment elle se dit, mais en fait, en vrai, j'aimais quand même un peu bien qu'il y ait du bruit. Je veux pas non plus être complètement isolé. Je veux pas être toute seule dans mon coin. Je veux quand même avoir de la communication. Mais et c'est justement moi cette nuance et cette espèce de juste milieu que j'essaye de prôner et que j'essaye de développer. En faisant attention à pas me tromper moi-même sur ce que je suis en train de faire, parce que ce sujet étant tellement actuel que j'essaie toujours de reprendre du recul dessus tout le temps pour ne pas me fourvoyer et puis de me documenter, de lire, de se tenir au courant un petit peu de l'état de la recherche et des débats contradictoires dans la recherche sur ce sujet. Mais voilà, moi je reste persuadé que ces technologies sont là et qu'elles ne s'en iront plus, tant qu'il y aura de l'énergie pour les alimenter en tout cas, et qu'il va falloir faire avec, et qu'il va falloir que nos jeunes et nos ados et nos adultes, puisqu'en fait il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont concernés par ça, apprennent un petit peu à s'en servir avec une juste mesure et à les observer avec un regard critique, sans nécessairement je n'ai pas de mots, sans nécessairement les repousser en bloc, voilà.
Après, lors des chroniques de Claire auxquelles tu as fait référence, moi j'ai déjà donné mon point de vue, je le trouve affolant, Claire partageait mon avis, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais là-dessus on était d'accord, continue de trouver ça affolant et ça choque ma fille et je suis toujours attentif à ce qui la choque parce que je me dis elle a un regard comme ça, un peu comme les petits princes de Saint-Exupéry, voilà, neutre et voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui surprend les enfants hein, dans le regard qu'ils portent sur le monde qu'on leur offre et de voir des adultes dans les airs de jeux sur leur téléphone pendant que les enfants jouent, etc., etc. Et je pense que là c'est la limite du système là. Et juste, je vais aller très vite, c'est pour ça que je parle tout vite parce qu'il reste pas beaucoup, juste pour me positionner là-dessus par rapport à tout ce que tu viens de dire sur les moi pendant longtemps je me donnais comme injonction de relativiser pour pas passer pour un vieux, point de suspension, et je me disais il faut absolument que je dise oui, mais en même temps je suis d'une génération d'enfants de la télé, d'ailleurs on en a même fait une émission sur ma génération, on passait des heures, il y avait entre le Dorothée, le machin, le truc, on c'était très chronophage. Alors du coup je relativise, je dis oui mais ça se trouve c'est juste je veux pas passer pour un vieux schnock, du coup faut respecter, après tout c'est pas pire que nous à notre époque avec la télé, mais en fait j'en suis totalement revenu sur mes nuances.
Non, c'est différent.
Et j'en fais plus des nuances parce que je constate jour après jour les dégâts. Et la différence qu'il y avait avec nous qui pouvions éteindre la télé, etc., puis qui avions, du coup, quand elle était éteinte, c'est des moments de discussion parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Là, les réseaux sociaux, c'est 24-24, même quand c'est éteint à table, etc. Et je trouve que là, on rentre à la limite, il faut vraiment faire attention.
Dans mon expérience, ce qui est rassurant, c'est que quand on enlève le téléphone et qu'on propose quelque chose de qualité, 9 fois sur 10, eh ben, il pose le téléphone et effectivement rapidement il l'oublie.
Mais faut
c'est le truc qui me rassure, mais c'est une vraie
démarche.
Proposer. Et il faut pas que ce soit les parents souvent.
Ouais.
Et oui, c'est ça le problème.
C'est vrai.
Voilà, bah voilà, c'était.
C'était chouette.
De la musique et des thématiques.
De belles thématiques. je pense qu'ils vont se poursuivre dans l'esprit de nos auditeurs.
L'idée, c'est d'aller explorer ça tout le long de l'année.
Une émission qui résonne. À bientôt. Merci Jean-Luc à la technique. À la semaine prochaine.
Merci
pour
Jean-Luc.
Vie associative. Merci David.